bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période et à un pays qui sont un vrai casse-tête pour les historiens, le Second Empire allemand de 1871 à 1918.
Absolument.
Et le point de départ, c'est un contraste qui est saisissant. D'un côté, on a une nation à la pointe de la modernité.
Oui.
C'est le pays de l'acier Krupp, de la chimie de BASF, des moteurs de Siemens. Une puissance scientifique industrielle avec des universités qui attirent le monde entier.
C'est ça.
Et de l'autre, l'image d'Épinal. Un empereur en uniforme, casque à pointe, une société obsédée par l'armée et un système politique qui semble bloquer un siècle en arrière.
Voilà.
Alors comment ces deux réalités ont pu coexister ?
C'est toute la question. C'est la question à un million de marqueurs. C'est vraiment ce paradoxe qui rend la période si fascinante et au fond si explosive.
Oui.
On a une société qui se transforme à une vitesse folle. L'industrialisation, les villes qui explosent, des nouvelles classes sociales. Mais le logiciel politique, lui, il ne se met pas à jour.
Il reste figé.
Il reste figé. Les institutions sont profondément autoritaires sous la coupe de l'empereur et d'une élite traditionnelle très militaire. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre à travers les documents qu'on a, c'est comment cette tension a fonctionné.
D'accord.
Comment cette culture politique si particulière, ce mélange de nationalisme agressif et de culte de l'armée, a pu à la fois cimenter et, disons, empoisonner cette nation jusqu'à la veille de la Grande Guerre.
D'accord. Alors, pour bien saisir ce paradoxe, décortiquons les deux faces de la médaille. Commençons par le côté moderne. Concrètement, ça ressemblait à quoi cette Allemagne en plein boom ?
Ah, c'est une véritable explosion. C'est la deuxième révolution industrielle dans toute sa puissance. L'Allemagne dépasse la Grande-Bretagne pour l'acier dès les années 1890.
Déjà ?
Oui. Elle domine le monde dans la chimie, avec des entreprises comme Bayer, BASF, qui inventent les colorants, les premiers médicaments. Pareil pour l'électricité, avec Siemens ou AEG.
Et les villes ?
Les villes, c'est waouh ! C'est une transformation radicale. Berlin, Hambourg, la Ruhr, ça devient des fourmilières industrielles. Berlin passe de 800 000 habitants en 1871 à plus de 2 millions en 1910. C'est un pays qui vibre au rythme des usines et des chemins de fer.
C'est un tableau très, très dynamique. Mais alors, en face, comment se présente le système politique ? On a du mal à imaginer ce tourbillon d'innovation dirigé par des aristocrates en monocle.
Et pourtant, c'est en grande partie le cas. Le pouvoir réel, il n'est pas là où on l'attendrait.
C'est-à-dire ?
Il y a bien un parlement, le Reichstag, qui est même élu au suffrage universel masculin, ce qui est assez avancé pour l'époque.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est une façade démocratique. Le point crucial, c'est que le gouvernement et son chef, le chancelier, ne sont responsables que devant une seule personne, l'empereur, le Kaiser.
Pas devant le parlement.
Jamais. Le parlement peut débattre, voter des lois, mais il ne peut pas renverser le gouvernement. Les grandes décisions, la diplomatie, la guerre, tout ça s'est pris en cercle très restreint autour du monarque. C'est une coquille moderne avec un moteur archaïque, en quelque sorte.
Mais comment on fait tenir tout ça ensemble ? Une société qui bouillonne et un cadre aussi rigide. C'est quoi la grande histoire qu'on raconte aux Allemands pour qu'ils acceptent ce décalage ?
La grande histoire, c'est celle de la nation. Le ciment idéologique, c'est un nationalisme d'État promu sans relâche par le haut.
L'unité nationale avant tout.
Exactement. L'idée, c'est « peu importe nos différences, nous sommes tous Allemands, unis derrière notre empereur et notre armée qui nous ont donné la victoire en 1871 ». Sauf que cette unité, c'est un mythe. Ce nationalisme, il fonctionne surtout en désignant des ennemis, en excluant.
Il ne rassemble pas vraiment.
Non, il ne parvient pas à masquer des fractures très, très profondes.
Lesquelles, par exemple ?
D'abord, les fractures religieuses. Le nouvel empire est à majorité protestante, dominé par la Prusse protestante. Donc la forte minorité catholique, surtout dans le sud, en Bavière, est vue avec une immense méfiance. Bismarck a même mené contre eux une sorte de guerre culturelle, le Kulturkampf.
D'accord.
Ensuite, il y a les fractures régionales. L'Allemagne est une fédération, mais la Prusse écrase tout. Les Bavarois n'ont pas du tout la même culture que les Prussiens. Et puis il y a les minorités nationales intégrées de force, les Polonais, les Danois, les Alsaciens-Lorrains, qui subissent une germanisation forcée. Ce n'est pas un projet inclusif, c'est une machine à imposer une identité prussienne.
Et ce système déjà sous tension va connaître un tournant décisif en 1888, avec l'arrivée sur le trône d'un personnage haut en couleur, Guillaume II.
Ah oui, lui.
Il semble incarner à lui seul toutes les contradictions de son époque.
C'est un cas d'école. Il arrive au pouvoir à 29 ans, plein d'énergie, plein de complexes aussi. Et 2 ans plus tard, en 1890, il fait un geste politique majeur. Il renvoie le vieux chancelier Bismarck.
Le père de l'Allemagne.
Le père de l'Allemagne. Le message est clair. C'est fini, le pilotage prudent du vieux sage. Maintenant, c'est lui, le seul maître à bord. Il veut exercer ce qu'il appelle un gouvernement personnel, le Persönliches Regiment.
Et il se voit comment ?
Comme un monarque moderne.
Oui, il est fasciné par la technique, les grands navires, mais en même temps, il est obsédé par le prestige divin de sa fonction et par l'armée.
Les sources le décrivent comme très théâtral, presque une star. On est loin de l'image du monarque discret.
Ah, complètement. Il est partout, tout le temps. Il voyage sans cesse, il prononce des discours improvisés, souvent très agressifs, qui embarrassent ses propres diplomates.
Et cette passion pour les uniformes, c'en est une obsession. Il en aurait possédé plusieurs centaines. Il en changeait plusieurs fois par jour. L'image qui s'impose, c'est celle de l'empereur avec le fameux casque à pointe, la Pickelhaube. C'est presque du marketing politique avant l'heure. Cette image est partout, sur les timbres, les tasses, dans les manuels scolaires. C'est ça, le Wilhelminisme.
Et ce Wilhelminisme, ce n'est pas juste un style. Ça a de vraies conséquences politiques.
C'est bien plus qu'un style, c'est une culture politique qui infuse toute la société. Cette mise en scène permanente du pouvoir impérial et militaire, ça sert à imposer un modèle.
Lequel ?
Celui de la caserne. Les valeurs qui sont exaltées, c'est l'ordre, la discipline, la hiérarchie, l'obéissance aveugle au chef. L'armée n'est plus juste un outil de défense, elle devient le modèle d'organisation idéal pour toute la nation.
D'accord.
Le système politique reste cet autoritarisme constitutionnel dont on parlait, mais avec Guillaume II, la dimension personnelle, l'arbitraire et la mise en scène deviennent centrales.
Ce changement de style à la tête de l'État a forcément dû se traduire par un changement de cap à l'international, j'imagine.
C'est un excellent point.
Un empereur aussi impatient ne pouvait pas se contenter de la prudence de Bismarck.
Non, absolument pas. Il lance ce qu'on appelle la Weltpolitik, la politique mondiale.
La politique mondiale.
L'idée est très simple. L'Allemagne est devenue un géant économique, mais elle est encore un nain politique. Elle est arrivée tard dans la course aux colonies, elle n'a pas d'influence mondiale à la hauteur de sa puissance. Guillaume II et son entourage, ils sont habités par un sentiment de frustration, l'impression qu'il faut rattraper le temps perdu.
Et réclamer sa place au soleil.
C'est la formule exacte.
Et comment il compte s'y prendre ? Quel est l'outil principal de cette Weltpolitik ?
L'outil numéro 1, qui va devenir une véritable obsession nationale, c'est la construction d'une immense flotte de guerre. C'est l'amiral von Tirpitz qui lance ce projet. Pharaonique, à partir de 1897. L'objectif est clair, construire une marine capable de rivaliser avec la Royal Navy britannique.
Mais attendez, l'Allemagne c'est une puissance terrestre avant tout. Son armée de terre est la meilleure du monde. Pourquoi se lancer dans une course navale contre la Grande-Bretagne ?
C'est contre-intuitif.
Oui, c'est un peu comme si un champion de boxe décidait de défier un champion de natation dans une piscine.
C'est une très bonne image. Eh bien, c'est là que la psychologie du régime entre en jeu. Pour Tirpitz et l'empereur, la flotte, c'est le symbole ultime de la modernité et de la puissance mondiale. Un grand pays doit avoir une grande flotte.
C'est une question de prestige.
De prestige, mais c'est aussi un projet qui peut unir la nation. Et ça marche. Le navalisme devient un phénomène culturel de masse. Une association, la Ligue Navale, le Flottenverein, est créée pour soutenir le projet. Elle atteint des millions de membres.
Des millions ?
Oui, des millions. Elle organise des conférences, diffuse des images de cuirassés dans les écoles. Les enfants donnaient leurs petites économies pour financer les navires. C'était un projet extraordinairement populaire.
D'accord, donc c'est un succès populaire. Mais sur le plan stratégique, ça a fonctionné ?
Et c'est là que le bât blesse. C'est un échec stratégique monumental.
Ah bon ?
L'idée de Tirpitz, c'était que si l'Allemagne avait une flotte assez puissante pour menacer la Royal Navy, les Britanniques seraient bien obligés de la traiter avec respect et de, devenir son allié.
Logique.
Le résultat a été l'exact opposé. Inquiets de cette menace directe, les Britanniques se sont lancés dans une course aux armements encore plus folle et surtout, ils ont fait ce qui était impensable, ils se sont rapprochés de leur ennemi de toujours, la France.
L'entente cordiale de 1904.
C'est ça. Le plan allemand pour se faire un allié a en réalité cimenté le bloc qui lui fera face en 1914. C'est un retour de flamme. Spectaculaire.
Un incroyable retour de flamme en effet. Et l'autre volet de cette place au soleil, c'était les colonies. À quoi ressemblait l'empire colonial allemand ?
C'était un empire tardif et assez dispersé. À partir de 1884-85, l'Allemagne met la main sur des territoires en Afrique, le Togo, le Cameroun, l'actuelle Namibie, la Tanzanie et quelques îles dans le Pacifique. Mais plus que sa taille, c'est la manière dont il a été géré qui est révélatrice.
C'est-à-dire ?
L'administration était très militaire, très brutale, fondée sur le travail forcé et une ségrégation raciale stricte.
Les sources insistent sur un épisode particulièrement sombre dans le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie.
Oui, et c'est un point capital. Face à une révolte des peuples Herero et Namaz entre 1904 et 1908, la répression menée par le général Von Trotha a été d'une brutalité inouïe.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a émis un ordre d'extermination explicite contre les Hereros. Des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées, abattues ou repoussées dans le désert pour y mourir de soif. C'est un événement aujourd'hui reconnu par beaucoup d'historiens et par l'Allemagne elle-même comme le premier génocide du XXe siècle.
Le premier ?
Oui. Ça montre la violence extrême dont cette culture impérialiste et militariste était capable.
Pour soutenir une politique aussi agressive à l'extérieur, il faut que la population suive, qu'elle soit convaincue. Comment est-ce qu'on fabrique le citoyen idéal du Reich ?
C'est là qu'intervient le Reichsnationalismus, ce nationalisme impérial dont on parlait. Il a complètement changé de nature. Le nationalisme allemand de 1848, il était plutôt libéral, il rêvait d'une nation de citoyens.
Oui.
Celui de l'époque de Guillaume II est devenu autoritaire, conservateur. Il ne célèbre plus le peuple, mais l'État, la dynastie des Hohenzollern et par-dessus tout la puissance militaire. L'histoire qu'on enseigne aux enfants, c'est une suite de victoires prussiennes. La discipline devient la vertu cardinale.
Et comme on l'a vu, ce nationalisme fonctionne beaucoup en désignant des ennemis de l'Empire.
Constamment. Les Reichsfeinde. À l'intérieur, ce sont les socialistes, parce qu'ils sont internationalistes, ce sont les catholiques, toujours soupçonnés d'être plus fidèles au pape qu'à l'empereur.
D'accord.
Et de plus en plus, avec la montée d'un antisémitisme racial, ce sont les juifs, accusés d'être un corps étranger dans la nation. Des organisations de masse très virulentes, comme la Ligue pan-germaniste, diffusent ces idées et réclament une expansion territoriale encore plus agressive.
Quand on parle de cette culture, le mot qui revient sans cesse, c'est militarisme. On a l'image des défilés au pas de loi, mais les sources suggèrent que c'était bien plus profond que ça.
Absolument. Ce n'est pas juste le poids de l'armée dans le budget. C'est le fait que l'armée et ses valeurs deviennent le modèle pour tout le reste.
Pour toute la société.
Pour toute la société. L'idéal social, c'est l'officier prussien, souvent un Junker, un aristocrate terrien. Son code de l'honneur, sa rigidité, sa loyauté, tout ça est présenté comme le summum de la vertu allemande. Et ça se diffuse partout, hein, dans les lycées où les proviseurs sont souvent d'anciens officiers, dans les associations étudiantes avec leur duel à l'épée.
Partout ?
L'uniforme est partout. Et bien sûr, le service militaire obligatoire brasse des générations d'hommes et leur inculque cette culture d'obéissance et de fierté nationale agressive.
Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on finit par avoir une vision du monde où la guerre n'est plus la pire des choses.
C'est exactement ça. Et c'est peut-être le plus inquiétant. Pour une partie importante des élites, la guerre n'est pas une catastrophe, c'est une solution.
Une solution ?
Oui. C'est une épreuve de force inévitable, presque souhaitable. Une sorte de darwinisme social où les peuples les plus virils doivent l'emporter. Elle est vue comme un moyen de régénérer la nation, de ressouder les rangs. Et cette mentalité explique en grande partie pourquoi, à l'été 1914, tant de gens à Berlin ont accepté l'idée de la guerre avec une telle résolution.
Voire de l'enthousiasme.
Voire de l'enthousiasme. Les esprits y avaient été préparés pendant des décennies.
D'accord. Alors si on rassemble toutes les pièces, on a ce tableau d'un colosso économique, d'un géant scientifique.
Mais qui est politiquement immature.
Complètement bloqué dans son développement.
C'est ça, la modernité contradictoire allemande.
C'est l'expression parfaite. C'est une modernité à la fois éclatante et terriblement bancale. Progrès technique et archaïsme politique coexistent en permanence.
Bien sûr, il y avait des contre-pouvoirs.
Ah oui.
Les sociodémocrates sont devenus le premier parti au Parlement en 1912. Ils réclamaient plus de démocratie. Il y avait des libéraux, des artistes, des intellectuels qui contestaient ce modèle.
Mais ils n'ont pas réussi à...
Non, ces forces n'ont jamais réussi à renverser la structure du pouvoir. Le prestige de l'empereur, la fierté liée à la puissance économique et l'efficacité de cette propagande nationaliste ont maintenu la cohésion du système, jusqu'à l'effondrement de 1918.
Ce qui est intéressant, c'est que ce cas allemand, bien qu'extrême, n'était peut-être pas une anomalie totale en Europe.
c'est une version particulièrement intense de tensions qu'on retrouvait ailleurs, c'est vrai. La spécificité allemande, c'est peut-être la force de l'État et de l'élite militaire pour canaliser toutes ces angoisses de la modernité vers un nationalisme expansionniste et ce militarisme omniprésent. La modernité allemande n'était pas inachevée, elle était profondément ambivalente. Elle portait en elle le meilleur comme le pire.
Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question à laisser mûrir. On a décrit un monde où une modernisation technologique fulgurante coexistait avec des structures politiques qui semblaient d'un autre temps. On peut alors se demander dans quelle mesure nos sociétés d'aujourd'hui, avec leur révolution numérique et leur système politique qui semble parfois si décalé, ne vivent-elles pas, elles aussi, leur propre forme de modernité contradictoire ?